Du 21 au 24 juillet, le festival de Néoul fête ses 30 ans. Pour célébrer ce moment unique, Radioactive réalise pour vous une série de podcasts. Artistes bénévoles, organisateurs, vivez avec nous ce festival de l'intérieur.
Il était tout petit comme ça, il sortait juste de l'œuf. Puis, quand ça fait, dirais-je, 91, tout a commencé. C'est là où on s'est pas assez méfié.
Vous venez d'entendre MB14, vous êtes sur Radioactive 100 FM, on vient d'en prendre plein la figure, il a ouvert le festival, il a chauffé le public à blanc, c'est ta première fois à Néoul ?
C'est ma première fois à Néoul et très bonne fois, je suis très content, c'était un super concert.
Tu es vraiment une bête de scène, tu as vraiment ça dans le sang.
Bah merci beaucoup, ça fait plaisir, bah c'est vrai que déjà j'estime que c'est au cœur de... du métier du spectacle vivant et de la scène, c'est qu'on joue aussi pour le public, donc c'est normal, il faut donner un maximum d'énergie, se connecter à eux, leur parler, les faire rire, les faire chanter, etc. Donc déjà, c'est un truc qu'il faut faire, mais qu'en plus, moi, j'aime faire. C'est vrai, j'ai fait du théâtre beaucoup quand j'étais ado, j'ai toujours eu ce côté un peu clown aussi, j'ai fait beaucoup de concerts, donc voilà, j'aime jouer devant un public qui est content d'être là, et du coup, bah voilà, je suis trop content d'être sur scène, donc forcément, je me lâche.
Alors justement, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu fais... quelle sorte, quel genre de musique ?
Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, bah, je m'appelle MB14, je fais du beatbox, je fais du chant, je fais du rap, j'aime bien faire des bruitages, des imitations, j'aime tout ce qui est de la voix, tu vois, je suis même comédien à côté, et voilà, et même musicalement, j'aime aller dans tous les styles, j'aime bien le rap, j'aime bien le hip-hop, j'aime bien le reggae, les musiques du monde, j'aime bien la pop, j'aime bien la musique classique, beaucoup, donc tu vois, je mélange un peu tout. Dans mon set, tu vas avoir du reggae, de la soul, des balades, du rap français, anglais, enfin il y a vraiment de tout, parce que j'estime que la musique c'est un peu comme les couleurs, tu vois, t'as toute une palette de couleurs, c'est comme les fréquences, t'as les basses, les aigus, donc pour qu'un public soit comblé, j'estime que, enfin j'aime bien en tout cas donner un peu de tout, j'ai toujours aimé ça.
Justement, c'est une des paroles d'une de tes chansons, je crois que c'est Pyramide. C'est ça. In my veins, there's more than Arabic blood.
C'est ça, c'est vrai, parce que je suis algérien d'origine, algérien portugais. Et du coup, bah, ça aussi, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit, dans le sens où très tôt, j'ai appris un peu à parler arabe, j'ai appris beaucoup de choses sur l'histoire, la religion, etc. Tout en ayant grandi dans un pays comme la France. Je suis aussi d'origine portugaise, donc déjà très tôt, j'étais éveillé à la diversité culturelle chez l'être humain, tu vois. Et du coup, bah, forcément, à un moment, dans la musique, ça allait se ressentir aussi. Du coup, j'aime vraiment écouter de tout, quoi. Donc j'essaie vraiment d'incorporer un maximum. Puis... le beatbox, c'est aussi le fait d'imiter des sons. Donc moi, j'aime bien aller picorer plein de sonorités différentes dans des styles différents. C'est comme si j'arrive avec un attirail d'armes et de petits gadgets différents. Parce que vu que je fais du beatbox aussi, il faut que j'arrive à tenir un public pendant une heure, tu vois, qu'il soit intéressé, qu'il soit surpris, qu'il ait toujours le sentiment de découvrir un truc. En tout cas, j'essaye. Et du coup, bah, plus j'ai de sons de beatbox, plus je peux offrir de diversité et surtout de consistance au niveau du son. C'est-à-dire qu'il faut que les basses soient profondes, il faut que le beatbox soit bien dynamique et propre, il faut que je puisse chanter haut, aigu, grave. Enfin, voilà, j'essaie vraiment d'avoir un stuff super complet. Voilà.
Ouais, puis tu alternes super bien sur scène entre des morceaux pur rap, on va dire, et du beatbox. Tu peux nous faire un petit drop the bass ?
Vas-y. Drop.
Alors il y a Fabrice et Loris avec moi de Radioactive et de Cité des Arts, ils sont là, ils ont tombé la mâchoire direct. Alors parlons un peu matos, qu'est-ce que tu utilises par exemple?
Sur scène tu veux dire?
Oui.
Alors sur scène j'utilise une Loopstation RC505 de la marque Boss, qui est enfin Roland Boss et on va dire les leaders mondiaux au niveau looper. C'est-à-dire qu'avant les loopers ils étaient vraiment faits pour les guitaristes en général, guitaristes qui ensuite rajoutaient des couches par-dessus, mais là celle-là elle est vraiment faite spécifiquement pour les vocalistes, chanteurs, loopers, beatboxers, rappeurs, etc. Et du coup celle-là elle est utilisable à la main, il y a des effets dessus, il y a plusieurs pistes, donc tu peux aussi ajouter une variété au niveau de la structure du morceau. Tu peux rajouter de la reverb, du délai, de la saturation, de la compression, de l'EQ, tu peux vraiment t'amuser de ouf. Donc j'utilise ça. Et puis un micro. En micro, j'ai un Sennheiser E945 qui est bien pour les basses, tu vois, notamment quand je fais du looper. Et puis après, j'utilise ma gorge, ma bouche, mes dents, ma langue, mes poumons.
Tu peux empiler combien de pistes, par exemple, quand tu samples comme ça et que tu boucles?
Techniquement, avec le looper, tu peux vraiment empiler pendant des heures et des heures, mais personne ne fait ça. Ça reste de la musique, donc il faut que ça reste harmonieux, cohérent, que chaque instrument, ou en tout cas chaque section, ait la place de vivre, tu vois. Que ce soit un tout fluide et cohérent, et la structure, c'est toujours un peu pareil en termes de pistes. T'as la batterie, t'as la basse, je vais mettre des harmonies vocales, tu sais, pour faire un peu comme des nappes de clavier, on va dire. Ça vient un peu substituer ça. Tu auras toujours une petite piste avec un solo, une piste avec des refrains chantés. On peut beaucoup plus être libre en studio ou sur CD parce que vraiment, tu as le logiciel, tu peux empiler autant de pistes que tu veux. Alors que là, quand tu fais du looper en live, tu dois aussi faire en sorte que ça reste intéressant pour les gens. Si tu passes 8 minutes à construire un morceau, les gens ils se font chier au bout d'un moment. Et donc il faut réussir à rendre le truc quand même attractif, donc se limiter à l'essentiel, aux pistes vraiment pertinentes et intéressantes. On va dire qu'il faut que chaque piste soit indispensable. S'il y a un truc qui est là et qui n'a pas besoin d'être là, ça te fait prendre plus de temps qu'autre chose, et c'est pour ça vraiment j'essaie d'aller à l'essentiel quoi.
Tu as participé à The Voice, je crois que tu as hésité d'ailleurs.
J'ai beaucoup hésité avant de participer à The Voice. Ça a été diffusé en 2016, mais les enregistrements des premières émissions c'était en 2015. Et ouais, j'ai beaucoup hésité parce que tu sais, moi j'aime beaucoup de choses en musique, et puis surtout j'aime être libre en fait. Et le problème c'est que moi j'étais très très méfiant de la télé, tu vois. Et ça, on le sait tous, j'ai pas de honte à le dire, c'est que j'étais très méfiant, j'avais pas envie d'être trop formaté, de perdre mon essence, perdre ma liberté, ranger dans une case de celui-là il fait ça et que les gens ils aient un préjugé là-dessus. Et je suis content parce que mine de rien, The Voice, j'ai pu vraiment mettre en avant le côté beatbox. C'est-à-dire que les gens se souviennent plus de moi pour le beatbox, qui du coup laisse un champ plus ouvert, on va dire, de possible dans la tête des gens. J'ai eu la chance d'aller assez loin dans l'émission. Et voilà, mais c'est vrai que ouais, j'ai hésité et au final, je regrette pas du tout. Au contraire, je suis très content, ça m'a changé ma vie, tu vois. Ça m'a permis de... J'ai appris beaucoup de choses. En 5 ans, j'ai beaucoup voyagé, beaucoup fait de concerts, rencontré beaucoup de gens. J'ai gagné ma vie grâce à ça. Ouais, c'est vraiment 5 ans de ouf. Et si c'était à refaire, je le ferais sans hésiter. Tous les morceaux que j'ai fait à The Voice, c'est des morceaux que j'aimais et que j'avais envie de faire, voire même certains que je faisais avant The Voice, en fait. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas quand on va jusqu'en finale, d'avoir la possibilité de chanter que des chansons qu'on aime. Et donc c'est pour ça que je suis très content. Et un grand merci à l'équipe de The Voice. Hein. Et puis au public, bien sûr.
Oui, tu as été d'abord à la team Zazie, puis après Mika. Alors qu'est-ce qu'ils t'ont apporté comme conseil?
Disons que ce que tu apprends avec eux, parce que bon, faut savoir que tu les vois, mais tu les vois pas non plus tous les jours pendant des heures. Tu les vois sur certains créneaux bien définis d'une heure. C'est du coaching soit en salle, soit le coaching, tu sais, sur le plateau pour préparer le morceau. Je pense que ce qu'ils t'apprennent, c'est plus un état d'esprit que vraiment des trucs techniques. Tu vois, Mika, il m'a appris 2-3 trucs techniques. Genre, par exemple, se tenir droit, c'est un truc que je faisais pas forcément avant. Maintenant, j'essaye de un peu plus me tenir droit. Parce que le fait de se tenir droit, ça induit des mécanismes musculaires, respiratoires, voilà, on sait, le diaphragme, tout un tas de choses. C'est pas avec eux que j'ai le plus appris ni le plus progressé sur The Voice, on va pas se cacher. C'est aussi beaucoup avec les coachs de la prod qui, eux, sont là tous les jours pour te faire chauffer ta voix, te donner des conseils vraiment techniques sur, je sais pas, le positionnement du larynx, de la langue, etc. Là, c'est de la technique de chant.
Ah mais justement, on en parlait en off tout à l'heure, je me disais que c'est peut-être la pression aussi qui est difficile à choper dans The Voice, mais en fait, tu m'as dit que tu avais plus de pression sur des battles.
Alors ouais, en fait, il y a quand même beaucoup de pression à The Voice, hein, quand même, parce que, on va dire, à The Voice, c'est télévisé, il y a des millions de personnes qui vont regarder, ça va rester pour l'éternité, si tu te foires, tu te foires, et il y a quand même une pression, parce que tu deviens, on va dire, quelque part un personnage public, donc elle est là, la pression. Mais c'est vrai que sur les battles, par contre, j'ai toujours eu beaucoup plus de pression parce que je me considère plus sur mon territoire et chez moi dans les compètes de battle qu'à The Voice. C'est de prouver aux autres beatboxers, de rendre fiers les gens qui sont dans la salle, le jury. C'est une communauté qui m'a accueilli les bras ouverts et qui m'a donné beaucoup confiance. Tu sais, j'ai rencontré des beatboxers, c'était des stars pour moi, tu vois. Mais ça reste quand même de la pression dans tous les cas. Mais Ça s'est bien passé jusque-là, donc ça va.
T'as eu un retour des beatboxers du monde du beatbox comparé à The Voice ?
Ouais, bah en fait, en 2016, il n'y avait pas beaucoup de beatboxers à la télé. Et en fait, quand je suis passé à The Voice, ça a fait beaucoup de bruit. Tu sais, d'un coup, les gens, tu leur disais beatbox, enfin, plein de gens qui voyaient direct The Voice. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de soutien de la part de mes potes beatboxers aussi qui me disaient qu'ils étaient contents que je représente la communauté, que je représente le beatbox et montrer que c'est pas. Tu sais, le beatbox, c'est pas qu'un truc de soirée, genre. Un peu pas clownesque, mais... Ah, vas-y, tiens, fais-nous un truc. Amuse-nous, tu vois. Et ça a pu avoir cette connotation. Et en fait, moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est que le beatbox, c'est vraiment un instrument musicalement qui peut être très complexe, très riche. Et mes potes, ils m'ont beaucoup soutenu grâce à ça, tu vois. Dans le sens où, en mode, bah, je représente et je représente bien. Et ça... Enfin, de ce qu'ils me disaient. Donc...
Ouais, puis bon, tu dis que tu t'es mis la pression aussi en beatbox. Bon, t'as gagné un championnat à Cardiff aussi, quand même, aussi.
Championnat du monde aussi en équipe, en 2018.
Oui, oui.
En fait, j'ai fait pas mal de battles entre 2015 et 2018, 2019 même. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de gagner les championnats du monde en équipe, avec mon groupe, enfin mon ancien groupe en 2018, du coup, à Berlin. Donc en plus, dans un des pays du beatbox, Berlin, c'est ça, mon ancien groupe. Et donc, on a gagné les championnats de France aussi en 2016. Et donc voilà, j'ai fait beaucoup, beaucoup de battles et ça m'a toujours beaucoup apporté, même en termes d'expérience scénique, tu vois, c'est bien de... Autant dans la victoire que dans la défaite, hein. Tu sais, quand tu perds, ça te met une petite gifle et c'est toujours bien, donc... Ouais, c'est grave, c'est ça, et puis même ça te met face à la réalité de ce qu'un public aime. Tu vois, t'as tes projections à toi quand t'es beatboxer, tu te dis « ouais, je vais faire ça hein. », et en fait, quand t'arrives sur le battle, tu te rends compte que des fois, ça se passe pas du tout comme tu l'avais prévu, tu te rends compte de tes failles aussi... Niveau respiratoire, niveau stress, ça reste des mécanismes physiologiques super intenses, quoi. C'est pas normal d'aller devant des gens et de faire du son, tu vois, c'est pas normal. Donc le corps, il est en état de stress tellement fort que moi, ça m'a appris beaucoup sur la gestion de mon stress, mon calme, l'importance de faire du sport, l'importance de bien s'hydrater, enfin, de bien dormir. C'est important, en fait, vraiment, c'est important. Tu répètes toute l'année pour être prêt le jour J, en fait. Et voilà, et ça va même au-delà des battles, ça va sur les concerts, dans le cinéma, dans la danse. Faut vraiment maîtriser son corps de ouf et son cerveau et toute la chimie qui se passe dedans, quoi.
Je vais finir sur une petite note de Corentin Trivero. Donc, au bout de 5 minutes sur scène, il a dit « ce mec est un génie ». Donc c'est le président de l'association, évidemment, Château Loin Chemin Pluriel, qui organise le festival de Néoul. Comme j'ai dit, t'as chopé le public. Tu les as retournés, tu les as chauffés à blanc. Le mec qui passe après toi, c'est du... c'est de l'or. Un petit dernier mot pour les auditeurs d'Active.
Eh ben, les gars, merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour votre invitation, bien sûr. Merci pour l'accueil. J'espère que pour ceux qui n'étaient pas là au festival, j'espère qu'on se verra sur une prochaine scène. Et merci encore à toute l'équipe du festival de Néoul pour leur accueil. C'était un plaisir. J'espère revenir à une prochaine. Merci à tous.
Big up.
Big up.
Oh.
Merci beaucoup.
C'est Juju pour Radioactive 100 FM, toujours au Festival de Néoul et je suis très heureux d'accueillir Naman. Bonjour, comment ça va ?
Bonjour, ça va très bien et toi ?
Ouais. C'est ta première date ?
Ma première date, c'est pas ma première date en France. On a fait déjà quelques trucs avec le groupe il y a 2 semaines, 3 semaines. On a recommencé la Belgique, tout ça. Et on a fait, là on arrive d'une session de 10 jours juste avec le DJ Fat Babs. Et c'est la 5e date de ces 10 jours. Voilà.
Ça fait du bien de retrouver le public.
Ça fait super du bien de retrouver la route, de retrouver le public et de retrouver les musiciens et les gens avec qui on avait l'habitude de partager ces moments-là. C'est fort de retrouver tout ça.
Ça fait du bien de retrouver Néoul.
Ça fait énormément de bien de retrouver Néoul parce que c'était en 2015, la dernière. Donc ça fait je sais pas combien d'années, mais un petit paquet quand même. Hein, tu vois.
Qu'est-ce qui vous attire plus particulièrement dans un festival comme Néoul ?
Le truc à Néoul, quand on dit on va à Néoul, on fait « Ah ouais, c'est le site là avec plein d'arbres, super ombragé, super cool. » C'est le cadre quoi.
Joli spot.
Joli spot, ouais. Et puis à l'époque, il y avait une villa avec une piscine, donc je sais pas si elle existe toujours. C'était les arguments dont on se souvient pour Néoul. Et puis forcément, rencontrer les familles, les communautés qui tiennent des festivals, quoi, parce que c'est toujours passionnant d'être au milieu de ça.
C'est ce côté associatif. Ça
vous c'est génial. Ouais.
Ouais, l'ambiance est géniale. Il y a le côté aussi un peu écologique sur le festival de Néoul.
Côté écologique, ouais. Alors ça, je suis pas informé autant que je devrais l'être, peut-être, tu vois, mais c'était déjà le cas en 2015, des gros efforts. Et là, je vois que ça continue, les gobelets, les bouteilles d'eau, on trouve pas de bouteilles d'eau, juste les gros trucs, et c'est génial, ça fait plaisir toujours quand on arrive sur un festival de voir ça.
Sur ton tour, ta tournée, tu as des exigences un peu comme de ce genre.
Ouais, alors on a essayé de mettre des trucs en place, pas mal d'années directement nous au sein de l'équipe, tu vois, comme avoir des gourdes, des trucs comme ça. C'est très dur à faire. On est à notre deuxième tentative, la première a échoué. Mais on s'accroche, tu vois. Quand on voit les festivals qu'ils font, parce que c'est vraiment eux qui génèrent, tu connais, hein, les quantités de bouteilles de plastique, de tout quoi que ce soit. Quand il y a des efforts qui sont faits, non, mais c'est super plaisant. Et nous, on le met, oui, effectivement. J'ai demandé à l'équipe de mettre un petit mot avec, même fourni par le booker, qui est Bleu Citron, carrément une fiche qu'on remet au festival s'ils ont besoin de conseils, de direction pour améliorer certaines choses. Donc, ouais.
Vous aimez bien la programmation aussi du festival.
La programmation, ouais, carrément, carrément. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des réunions comme ça de potes, quoi. Parce qu'on avait toujours l'habitude, quand on se retrouve sur les festivals qui font du reggae, se retrouver en tant que potes. Et là, il y a pas mal de gens qu'on est très heureux de retrouver, comme Soumti, Scars et Raspigaous, que je connais pas, que j'ai très envie de voir, parce que c'est des gens que j'ai écoutés aussi. Mmh. Et voilà.
Quand il n'y a pas de festival, quand il n'y a pas de concert, il n'y a pas de rencontre entre artistes, et donc il y a moins de création artistique aussi.
Je ne sais pas s'il y a moins de création artistique, mais c'est vrai qu'il y a moins de rencontres, moins d'échanges possibles. Ouais, il faut que ça soit fait à distance et tout ça. C'est plus compliqué. Alors après, moins de concerts, ça laisse aussi énormément de temps aux artistes pour faire la seule chose qui leur reste, c'est-à-dire enregistrer, créer, composer. Ouais.
Oui, mais justement, là, récemment, vous avez refait pas mal de morceaux acoustiques.
On a fait quelques morceaux acoustiques, ouais. Voilà, dû à cette inactivité, tu vois, il a fallu faire des choses. Il se trouve que moi j'habite en Inde, à Goa. Il y a beaucoup beaucoup de musiciens là-bas qui sont partants pour faire absolument tout et n'importe quoi. Donc on s'est rassemblés, on a fait quelques trucs, quelques jams, et puis on en a filmé 2-3 en l'occurrence. On a ce petit EP qui s'appelle Unplugged, avec 3 morceaux. Ouais.
Ouais, c'est exceptionnel les musiciens, notamment j'ai vu le petit saxophoniste là, il est très jeune.
Il est très jeune, et son grand-père a été un saxophoniste très connu à Goa, et il tient ça de son grand-père, et il joue avec passion et amour, c'est un gars super.
Cette volonté de faire de l'acoustique, c'est quelque chose de normal dans votre évolution musicale, ou c'est une recherche de sonorité ?
Non, ça, je pense en tant que tout chanteur commence par l'acoustique, parce que c'est très facile, il suffit qu'on sache faire de la guitare ou quoi. Donc c'est un truc par lequel on commence. Moi, ce qui m'a beaucoup touché, je suis de la génération trio, tout ça, donc... vraiment cette influence là, c'est un truc qui me parle. Et là, en fait, vu qu'il y avait vraiment une distance qui s'est installée entre nous et le public, entre nous et les gens qu'on avait l'habitude de rencontrer, faire un truc comme ça, enfin, en tout cas filmer ce que nous on fait de façon simple, et ça nous permettait un peu de créer ce pont, quoi, de recréer ce pont, enfin en tout cas de ramener de la proximité et de dire qu'on est encore là et qu'on a hâte, quoi.
J'étais à côté de votre loge. J'ai entendu quelques morceaux un peu inédits.
Ah ouais, t'as entendu
dire. Même, je vous ai même entendu répéter par-dessus. Chanter.
Ouais, chanter, juste chanter par-dessus. On a reçu le vinyle test de notre prochain album. Et donc là, c'est la première fois qu'on écoute le vinyle. Il n'y a encore rien dessus, c'est juste un test. Et il fallait qu'on l'écoute pour voir qu'il n'y ait pas de bug, pour envoyer à la production, pour que les vinyles soient pressés. Salut Sonaman, vous êtes bien sur Radioactive 100 FM. Et garder la pêche, rester positif, mais attention, real positif. The other day, the wind carried the news from Tamiyad. Telling me about the stories, me never know it was so hard. If some of them can do the worst, man have to stand up for the best. Pushing our love, and I know love will do the rest. I remember the words them saying overseas. Whenever I see no banana growing at the top of the mango tree, so I won't care if some of them scratching on my knees. Life is over death, no matter what, that's how it is. So I won't worry.